Chapitre 17. La superbe harangue du charlatan produisit une sensation inexprimable. Les acheteurs se pressèrent en foule autour de l'officine à quatre roues, du haut de laquelle l'ami de l'humanité souffrante leur distribuait ses bienfaits empaquetés, tandis que la reine des îles Salmigondi en recevait le prix et que l'orchestre continuait son étourdissant vacarme. La vogue était naturellement réservée à ce fameux élixir qui rajeunissait même les centenaires, qui guérissait tout le monde, même les boiteux, les bossus et les manchots. Tout le monde en voulut, surtout les femmes, jeunes et vieilles, celles-ci pour recouvrer leur jeunesse, celles-là pour la conserver. Il restait cependant quelques fioles du merveilleux liquide, car le nombre des fioles préparées avait dépassé d'une vingtaine celui des dupes. Le marquis n'aimait point à perdre une partie de sa main-d'œuvre. Il prit une seconde fois la parole pour réchauffer l'enthousiasme. En général, au barreau et à la tribune, un orateur doit toujours parler deux fois sur le même sujet. « À mon reste, s'écria-t-il, à mon reste, c'est une occasion unique. Je ne donne mon Mathusalem à ce prix que pour cause de cessation de commerce. Dès demain, j'abdique en effet la glorieuse mission de faire le bonheur de mes semblables. » Dès demain, satisfait et content des immenses richesses que m'a valu mon philanthropique désintéressement, je retourne à la vie privée, je me retire dans mes terres, pour y goûter les charmes de l'étude et de la retraite, pour y voir se lever l'aurore et cultiver des pommes de terre, avec une conscience pure et tranquille, 200 000 livres de rente et le doux souvenir du bien que j'ai pu faire. La vie pour moi ne sera désormais que le soir d'un beau jour. Je le répète, messieurs et dames, profitez de la circonstance. Je ne vous ai pas dit, d'ailleurs, tous les effets de mon incomparable élixir. J'ai passé les meilleurs sous silence, car la modestie doit être l'apanage du vrai mérite. Mais puisque vous m'y forcez, je vais vous les révéler tous. Non seulement, messieurs et dames, mon élixir enlève les taches de rousseur sur le visage, mais encore il nettoie parfaitement les vieux habits. Non seulement il engraisse les personnes maigres, mais encore il maigrit les personnes grasses. Non seulement il rend la fraîcheur, la force, la santé, la vie aux hommes, mais encore il donne la mort aux mouches, aux cousins, aux puces, aux cricris, aux punaises, à tous ces insectes incorrigibles dont la nature s'est plu à orner nos domiciles, afin de nous faire admirer l'infinie variété de ses créations. Aussi, messieurs et dames, presque toutes les têtes couronnées de l'Empire m'ont accordé depuis longtemps l'entreprise générale de leur extermination. Je parle des insectes qui peuplent les palais. Voici comment il faut s'y prendre pour triompher de ces nuisibles hôtes qu'une femme de beaucoup d'esprit, la célèbre Madame de Staël, appelait les ennemis intimes. Occupons-nous par exemple de la punaise, car qui dit la punaise dit la puce, le cousin, la mouche, etc. Le procédé est le même. En général, on est injuste envers la punaise. C'est un animal extrêmement curieux à voir au microscope. Mais je n'ai pas mission de réformer tous les préjugés. Or, une bande de 5 000 punaises, je le suppose, a fixé son domicile politique dans votre alcôve. Que faites-vous en présence d'un si formidable danger? Rien de plus simple. Vous commencez par acheter mon élixir, et vous n'en frottez ni votre lit, ni vos tentures, ni vos rideaux, ni les parois de vos murailles. Et d'un. Quand vous n'avez pas fait cela, vous passez sans dormir 15 ou 20 minutes, s'il le faut, à côté de votre lit, la chandelle à la main, observant les mœurs de ce curieux animal, étudiant les nuances délicates de son caractère, explorant ses habitudes, ses goûts, ses caprices et même ses gracieuses fantaisies. Et de deux. Cela fait, quand l'heure de la vengeance vous semble enfin venue, vous vous mettez en embuscade, le cœur ému, comme le jour d'une bataille, l'œil attentif, la poitrine oppressée, à la porte du repère qu'habite votre implacable ennemie. Et là, lorsqu'elle vient à sortir de son antre, vous vous précipitez courageusement sur elle, vous la saisissez d'une main ferme mais délicate, vous la placez à la renverse sur le carreau, vous vous baissez, vous lui posez le genou sur la poitrine, vous lui reprochez sa conduite en termes amers, et enfin, vous vous écriez avec toute l'exaltation qu'inspire la victoire « Misérable, reconnais ton vainqueur !» Et de trois. Le tour est fait. Ce n'est pas plus long que ça. Vous pouvez ensuite lâcher votre adversaire si votre genou ne l'a pas trop incommodé. Il n'y a pas de danger qu'elle ose y revenir. L'animal est un peu trop humilié pour cela. Donc, pour peu que vous recommenciez le même manège avec les autres, vous êtes à peu près certain d'être débarrassé de la bande, y compris celles qui auront eu le temps d'éclore dans l'intervalle. Et voilà comment, messieurs et dames, par l'effet de mon élixir, on extermine les insectes réputés indomptables jusqu'à ce moment. Qu'on se le dise. En avant la musique ! Ce supplément de discours obtint le résultat qu'en attendait l'orateur. « Approchez, approchez sans crainte » continua-t-il en grossissant la voix et en agitant vivement les bras au-dessus de sa tête pour achever d'étourdir ceux des amateurs qui hésitaient encore. « Approchez, qui veut cette fiole ? C'est la seule qui me reste. Voici, madame, merci, madame, à l'avantage de vous revoir. Qui veut cette autre ? C'est la seule qui me reste. Laissez approcher, monsieur. Voici, monsieur, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Qui veut de celle-ci ? C'est la seule qui me reste. Les personnes qui ne seront pas satisfaites de l'usage pourront réclamer leur argent en rapportant la fiole. Parlez, parlez, personne n'en veut plus. Une fois, deux fois, trois fois. C'est bien vu, bien entendu. Pas de regret. Adjugez, la vente est close. Vous m'apporteriez maintenant des montagnes d'or que je vous dirai. Complet, adressez-vous ailleurs. C'est ainsi qu'il faut agir dans le commerce, la bonne foi avant tout. » Après avoir épuisé par ses divers moyens presque toute sa pharmacie, l'infatigable philanthrope se mit à extirper quelques corps pour ne pas se laisser rouiller la main dans l'exercice de ce qu'il appelait un talent de société. Il arracha quelques dents qui voulurent bien l'honorer de leur confiance. Les dents crédules n'étaient pas nombreuses, dans le principe. Aussi, pour exciter leur empressement, se vit-il forcé de montrer son savoir sur un des personnages de sa troupe. Ce fut Jean-Paul qu'il choisit pour cette expérience, comme il choisit Petit Jacques pour lui extirper en apparence les durillons qu'il n'avait pas. L'opérateur fit donc monter notre héros à côté de lui et se mit en devoir de lui dégarnir la mâchoire pour le plus grand encouragement des mâchoires récalcitrantes. Heureusement, l'intérêt même de l'opérateur lui commandait de ne faire sur son patient que le simulacre de l'opération afin de ne pas augmenter les appréhensions des mâchoires égrottantes. C'était de sa manche, non de la bouche de Jean-Paul, qu'il extrayait d'énormes chicots, dont il offrait ensuite le spectacle à la foule. Jean-Paul en fut donc quitte pour la peur et céda volontiers sa place à quelques véritables fluxionnaires qui s'en trouvèrent beaucoup plus mal. Plus d'une fois, il lui arriva d'arracher deux ou trois bonnes dents par la même occasion que la mauvaise. Mais alors l'impassible bourreau disait à sa victime « Rassurez-vous, il n'y en a que deux d'arrachés, ce n'est rien. Par la sangbleu, il devrait y en avoir bien davantage. Au surplus, je suis un honnête homme. Vous n'avez rien à perdre avec moi. Je vous ai arraché quatre canines, je vous les rends, car je suis incapable de faire du tort à qui que ce soit et vous n'en paierez qu'une seule. » Ce fut par ces opérations que le marquis termina sa promenade humanitaire. Son instinct, ou plutôt son flair, ne lui révélant plus aucun centime à extraire de la poche de ses auditeurs, il donna enfin le signal de la retraite. On revint à la grange avec le même déploiement de luxe, et l'on s'y prépara en toute hâte pour la représentation dont l'heure approchait. De nouveaux ennuis attendaient alors nos malheureux amis. « Mes jeunes virtuoses, leur dit le marquis de la Galoche, si j'en dois juger d'après votre conduite d'hier et d'aujourd'hui, il paraît que vous n'avez pas de disposition pour les rôles de bêtes féroces. Vous n'en avez montré jusqu'à présent que pour la clarinette, la grosse caisse et le flageolet par les narines. Je vais donc vous faire débuter dans un autre genre. Et par exemple, vous sentiriez-vous quelque goût pour la danse de corde ? Comment voulez-vous que nous dansions sur la corde ? Répondit Petit Jacques. Nous ne l'avons jamais appris. Ce n'est pas un empêchement, répliqua le marquis. La danse de corde est encore un de ces talents vulgaires qu'on apporte en naissant. Et d'ailleurs, quand on s'y casse le cou, cela ne gâte absolument rien au coup d'œil. Le public croit qu'on l'a fait exprès. Toutefois, puisque cela vous contrarie, laissons la corde pour aujourd'hui. Nous en reparlerons. En attendant, auriez-vous du moins quelque goût pour avaler des sabres ou pour manger des étoupes enflammées avec un peu d'esprit de vin en guise de sauce ? Ah, mon Dieu ! Allons, je vois ce que c'est. Vous préférez les étoupes au sabre, mais vous n'osez pas avouer votre faible. Voyez-vous, les gaillards, ils préfèrent les étoupes, ils ne sont pas dégoûtés. C'est bien certainement ce qu'il y a de plus friand dans l'état. Va donc pour les étoupes, car je suis le meilleur homme du monde. mais au moins ne vous plaignez plus de moi. » Jean-Paul et Petit-Jacques voulurent lui adresser quelques objections, mais l'éloquente Baguette de Noisetier menaça encore de les réfuter si victorieusement qu'ils n'osèrent pas les lui soumettre. Pendant ce temps, la bagatelle de la porte attirait les passants et la salle se trouva bientôt pleine de spectateurs. Le spectacle commença, comme à l'ordinaire, par des tours de gibecière et de prestidigitation. Le marquis excellait dans ce genre. Il escamota des montres et des bagues se retrouvèrent dans les montres, et les montres faillirent ne se retrouver nulle part. Il emplit un verre de vin et le jeta, changé en fleur, au nez du beau sexe présent. Il déchira des mouchoirs, les bourra dans un canon de fusil, fit feu, et les fixa tout à coup, parfaitement intacts, contre la muraille opposée. Il devina les cartes que chacun avait pensées. Il coupa le cou à un pigeon, et par la vertu de la poudre de perlimpinpin, recolla la tête et le corps, et ressuscita l'infortuné volatile. Il appela un des assistants et menaça de lui couper le nez au tranchant d'un immense rasoir. La frayeur du patient égaya beaucoup l'assemblée. Enfin, il cassa des œufs dans un chapeau d'emprunt, les en retira omelette, répartit ce comestible entre les amateurs qui le trouvèrent excellent et rendit le chapeau parfaitement sain à son propriétaire. La pâleur du pauvre homme pendant l'opération avait témoigné de ses inquiétudes et l'assemblée s'en était fort réjouie. Tous ces tours et beaucoup d'autres obtinrent le succès qui ne leur manque jamais. Pendant plus de 15 jours, les badauds du pays ne cessèrent d'en chercher le secret, se disant les uns aux autres « Mais mon Dieu, comment a-t-il pu faire? C'est donc un sorcier que cet homme-là » Vinrent ensuite les exercices de force, de funambulisme et d'équilibre. Les petites filles de la reine des îles Salmigondi firent des culbutes sur un tapis, se tinrent sur les deux mains, les pieds en l'air, et se penchèrent par la force du jarret en avant d'une chaise au barreau de laquelle leurs pieds seuls étaient appuyés. Elles firent le saut de la carpe, la roue, la pyramide, la guirlande, l'éventail et le bouquet, se groupant et s'enchevêtrant les unes avec les autres, de manière à former ces diverses figures. Les grandes sœurs dansèrent à leur tour sur la corde roide, avec et sans balancier, s'y assirent, s'y couchèrent à la renverse, s'y drapèrent d'écharpe, y firent la renommée sur une seule jambe, traversèrent des cerceaux, valsèrent à deux et à trois temps, et, pour terminer, exécutèrent intrépidement, les pauvres filles, le saut périlleux en avant et en arrière, à la juste épouvante de l'assistance. Pour faire ressortir par le contraste l'adresse, l'agilité, la grâce et le courage des petites et des grandes, Panouille les imitait en charge, échouant lourdement à chaque tentative, faisant d'abominables contorsions, se cassant le nez, roulant, tombant, criant. C'était la caricature à côté du tableau. La reine des îles Salmigondi réclama ensuite sa part d'applaudissements. Sa majesté avala, pour la millième fois de sa vie, un sabre creux composé de morceaux qui, au lieu de pénétrer réellement dans le gosier, rentraient discrètement les uns dans les autres, comme les tubes d'une grande lorgnette. Elle souleva à bras tendus d'énormes poids en tôle creuse. Enfin, s'allongeant le corps roidi, comme un pont vivant jeté sur deux chaises, la tête posée sur l'une, les pieds posés sur l'autre, elle se fit placer au creux de l'estomac une grosse enclume en carton peint, sur laquelle Panouille et le marquis frappèrent à tour de bras, au moyen d'immenses marteaux en liège, noircis à la limaille. Le tout sans qu'elle parût être incommodée, de ses coups à assommer un bœuf. Cet exercice qui fit frémir les spectateurs et tira de leur poitrine alarmée le cri de « Assez, assez !» termina dignement la première partie du spectacle. La seconde commença par une double séance de sorcellerie. Le marquis et son époux se placèrent chacun derrière un rideau, aux deux côtés du théâtre, tous deux disant la bonne aventure à ceux des amateurs, hommes et femmes, qui pour 2 sous de supplément étaient curieux de connaître leur futur, leur présent et même leur passé. Pendant que nos deux sorciers exploitaient à l'écart la foi de quelques béotiens, Panouille fit une quête à son bénéfice avec cette formule sacramentelle. « N'oubliez pas les petits profits de paillasse, s'il vous plaît. » Après quoi, pour remercier les donateurs et pour occuper l'attention des personnes de bon sens qui dédaignaient la science cabalistique de ses maîtres, il revint sur le devant du théâtre et exécuta, à la satisfaction générale, les diverses balourdises qui composaient son répertoire. Il se posa sur une chaise en équilibre sur le menton. Il se donna des soufflets sous prétexte de se prendre des mouches sur la joue. Il bâilla d'une oreille à l'autre, il feignit de dormir et ronfla en tuyau d'orgue. Il tourna rapidement sur lui-même, comme une toupie d'Allemagne, pour saisir le bout de sa tresse, laquelle tournait naturellement aussi vite que lui. Il chercha à se voir le blanc des yeux, dans ses yeux, avec ses yeux. Enfin, il loucha horriblement pour mieux apercevoir le bout de son nez. Ces invariables facéties amusèrent le public jusqu'au moment où le marquis et sa moitié rentrèrent en séance publique. Diverses expériences de fantasmagorie varièrent alors les plaisirs de la foule. Les palais en feu, les soleils tournants, les têtes de monstres, qui toutes petites d'abord grossissent, grossissent et semblent en grossissant, se précipitaient sur vous, les yeux flamboyants, la gueule ouverte, les dents aiguës, comme pour vous dévorer. Toutes ces brillantes illusions d'optique causèrent les alternatives habituelles de joie et de terreur au milieu de la profonde obscurité de la salle. Comme on le voit, le marquis de la Galoche avait plus d'une flèche à son arc pour chasser au badaud. Les chandelles furent rallumées. Le saltimbanque passa pour terminer la séance à l'exhibition ordinaire de sa ménagerie, des curiosités, des phénomènes vivants empaillés ou en bocal, et arriva enfin à la démonstration de ce que, dit-il, on avait réservé pour la bonne bouche. Il amena Jean-Paul et Petit Jacques sur le devant de la scène. Il les présenta au public comme des salamandres, animaux fabuleux qui sont censés vivre dans le feu et se nourrir de flammes. Et alors, pour en donner la preuve, il approcha de leur figure la chandelle qu'il tenait à la main et embrasa le paquet d'étoupes imbibées d'esprit de vin dont il leur avait bourré la bouche. Cela fit beaucoup rire les jobards. Quelle situation pour nos amis! Pour comble de malheur, et cela se conçoit, Jean-Paul et Petit Jacques oublièrent les sages recommandations qu'ils avaient reçues de leur maître dans la coulisse. Quand ils se virent un rideau de flammes devant les yeux, ils perdirent toute présence d'esprit. Ils arrachèrent maladroitement les étoupes de leur bouche, se brûlèrent les doigts, se sauvèrent à l'aventure, promenèrent au travers de la grange les lambeaux incendiaires qu'ils rejetaient loin d'eux, et enfin communiquèrent le feu aux bottes de paille, dont les piles garnissaient chaque paroi de la muraille. 5 minutes après, l'incendie dressait au-dessus du toit son long panache frémissant. Je n'essaierai pas de vous dire ce qui se passa en ce funeste moment. Les cris d'épouvante, les imprécations, les bondissements de la foule qui se précipitait vers la porte de la grange, devenue trop étroite pour ses flots accumulés, ce serait un horrible tableau.